I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence aux joueurs, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, est-ce qu'on a besoin d'un programme? Déjà, il faut partir sur les bases. Est-ce qu'on a besoin d'un programme parce que Persona 5 est sorti. C'est la question que je me suis posée, hein, je suis arrivé à la conclusion, oh, ça faisait longtemps quand même que depuis bon, Persona 5. Et donc, Persona 5, quoi. C'est Donc, en fait, on ne va parler que de Persona 5. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir... Je peux plus dire...
Attention, il y a prévenu. Hein.
Deux chroniqueurs que j'aime beaucoup. Voilà, ça le fait. Kevin Bitterlin du magazine JV, du podcast ZQSD. Bonjour Kevin.
Mais à moi, tu peux dire que je suis ton préféré, mais il faut pas le dire aux autres.
D'accord, ouais, ok. Ça va, c'est chaud quand même. Ouais. Et pour la deuxième fois, et
c'est ma deuxième fois.
Ouais, c'est que ta deuxième fois. Donc du coup, en temps normal, je pourrais dire que tu fais partie des chroniqueurs favoris, mais j'ai plus le droit. Daniel Andrieff, Camille Robotics.
Bonjour.
Alors, j'avais noté Slate Game Cult Pixel du Monde.
Ouais.
Et puis,
je suis punchliner aussi, voilà.
Punchliner et master du game des podcasts avec...
After Eight, Super Ciné Battle.
Voilà.
Et j'en ai un autre aussi qui s'appelle MDR et qui parle que de comédie française. Et je devrais dire les comédies françaises, sinon les gens pensent que c'est la comédie française. Non, c'est les comédies françaises.
Ouais,
et on s'enchaîne toutes les daubes qui...
Bah oui, bah parce que depuis quelques années, t'es quand même la référence de la comédie française pourrie.
Oui, je sais pas ce qui m'a pris un jour. J'ai compris que mon truc, c'est l'obsession. Et je regarde les choses jusqu'à l'obsession, jusqu'à la folie.
Il y a un côté destiné, en fait.
Complètement. À un moment, j'ai compris que c'était aussi mon truc, au même titre que Goldorak, au même titre que tous les autres choses qui me passionnent. Et je sais que c'est pas bien d'être passionné à ce point-là, mais voilà.
Tous les trucs pas drôles.
Je suis impatient d'entendre les recommandations de faire des missions.
Il y en a une cinquantaine qui sort par an, et il y en a peut-être une dizaine que je sauve, ouais. Donc c'est quand même un bon ratio.
Mais tu les vois tous?
Ah, je les vois toutes, ouais. Enfin, toutes celles qui sortent au cinéma dans un réseau normal, tu vois. Par exemple, le truc par Rémi, le YouTuber, là, et qui est sorti dans deux salles, il fallait le choper, ou alors c'est direct ou DVD. Mais sinon, ouais, non, vraiment,
MDR, je me les... Dernier je podcast, y a, on les trouve où?
Alors, sur iTunes. Sur vos applis podcast. Et aussi, After Eight et Super Ciné Battle sont dispo sur YouTube parce que on chérit un peu la minorité de gens qui sont à l'étranger, qui ont besoin d'un YouTube. Et MDR se trouve aussi sur SoundCloud, voilà.
D'accord. Bon, on va écouter ça.
Allez-y gaiement, parce que Super Ciné Battle, c'est vraiment pour les passionnés de ciné. Et After Eight, c'est pour les amateurs de hate.
C'est ça.
Voilà.
On commence avec toi, Kevin, avec... Mais ça fait plaisir, parce que quand t'es là, on parle de Hearthstone. En fait.
Tout à fait.
Bizarrement, c'est une sorte d'obsession. Et donc, Hearthstone, dernière actualité, comme trois fois par an maintenant, ça a l'air d'être un peu le rythme.
Ouais.
Il y a une extension, et une extension qui vient avec plein d'autres choses, et qui n'est pas...
Ouais, cette extension-là, en plus, marque le début de la deuxième année compétitive, ce qui sous-entend, pour essayer d'être, parce que c'est toujours compliqué quand on parle d'Hearthstone, on est tout de suite dans les langages très, très pointus, mais grosso modo, ça veut dire qu'il y a énormément de cartes qui ont disparu du mode compétitif pour laisser la place à de nouvelles. Donc c'est quand même un moment toujours très très attendu par la communauté.
C'est le voyage à Un'Goro.
Voilà, oui. Donc c'était une carte dans WoW avec plein de dinosaures et des volcans. Ça a permis d'apporter plein de cartes sympathiques avec des dinosaures. Moi, je trouve toujours ça trop mignon. Donc moi, j'étais assez content.
Les dinosaures, de toute façon, c'est de la bonne
ambiance. Tu maximises ton plaisir.
Mais peut-être pour la première fois, je sais que quand on en a un peu parlé en préparant l'émission, on va sans doute être d'accord. Moi, je suis un peu déçu pour une raison très simple, c'est que moi, ce que j'aime dans Hearthstone, c'est l'interactivité, l'échange, de casser les cartes de l'adversaire. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle extension, ils ont introduit une mécanique de quête, c'est-à-dire que chaque joueur de son côté du board va avoir un objectif ouais. à accomplir. Ça peut être de poser tant de cartes d'une même mécanique, etc. Ce qui fait que j'ai l'impression que chacun joue un peu de son côté et joue tout seul, en fait, jusqu'à accomplir sa quête. Et une fois que la quête est accomplie, en général...
Le premier qui arrive.
Donc je sais pas si toi tu as ressenti ça. Je sais qu'on a parlé un peu de la quête de la classe voleur qui est particulièrement destructrice. Mais moi c'est un peu mon regret. Alors moi je te pose la question. Toi, est-ce que tu ressens ce côté perte un peu d'interactivité de chacun joue un peu sa partition de son côté. Quoi.
Moi ce qui m'intéresse depuis trop longtemps dans Hearthstone de toute façon, c'est moi après c'est vrai que j'avais pas joué beaucoup à des jeux compétitifs de cet ordre-là, mais c'est ce qu'on appelle la méta, ouais. C'est-à-dire en fait avec un ensemble de disponibles à intenter 400 cartes on va dire à peu près, il y a des schémas de deck, des schémas de cartes qui ressortent et qui constituent la méta, parce qu'en fait c'est un méta-jeu où des decks principaux vont s'affronter, et ce qui est intéressant c'est qu'on rencontre un ennemi, on va anticiper les cartes qu'il peut avoir parce que son deck ressemble à quelque chose qu'on a déjà rencontré, etc. Ouais. Donc c'est ce méta-jeu qui est intéressant, et en plus qui est, vu qu'il y a énormément de cartes, énormément de combinaisons possibles, et ben il évolue dans la durée, il y a des nouvelles forme qui arrive. Moi, ce qui m'a un peu décontenancé dans cette extension, c'est que, pour avoir évidemment suivi un peu les 24 heures qui ont suivi la sortie, et ben, au bout de 24 heures, on avait l'impression que la méta était quasiment figée, en fait. Elle a un peu évolué après, mais il y avait des grands trucs qui étaient arrivés. C'était déjà arrivé à l'extension précédente avec des modèles très agressifs qui étaient sortis très vite et qui ont duré pendant tous les mois et qui ont dominé un peu le jeu pendant plusieurs mois. Et donc j'ai trouvé que pour un truc qui est, voilà, normalement on remet les trucs à plat, bah on a encore une fois des modèles qui se sont ressortis.
D'autant plus que le deck le plus fort de la méta précédente est encore le plus fort sans doute aujourd'hui, c'est parce que lui il n'a pas du tout été impacté par le changement des cartes.
Ce qui donne un univers avec des pirates et des dinosaures, ce qui est en plus très très cool. Il manque les ninjas.
Il y en a quelques-uns.
Un Murloc
ninja.
Quelle est la bonne porte d'entrée pour le mec qui n'a jamais joué à Hearthstone?
Bah, moi j'ai envie de dire que c'était début avril parce que
il y a c'est pas loupé jusqu'à l'extension suivante, mais là disons qu'on est à un point où il n'y a pas besoin de trop d'investissement. Mais après le problème c'est que maintenant, mais comme dans tous les jeux free to play qui ont plusieurs années derrière eux, bah, c'est que le coût d'entrée pour
ne
vraiment
rattraper son retard,
est assez élevé quand même. C'est-à-dire que par exemple nous en tant que joueur historique, on n'a pas énormément de sous à dépenser, quand une nouvelle extension sort. Moi, l'extension précédente, j'ai absolument rien dépensé parce que j'avais suffisamment accumulé de trucs. Ouais. Mais pour un nouveau joueur, ça coûte un bras.
Les éclairs dans tes yeux à chaque fois que tu en parles.
Parce que bon, c'est assez rigolo.
Est-ce que c'est mieux ou moins bien que le Gwent, le machin,
le Gwent,
le jeu qui était autour duquel ils ont mis un autre jeu pas très intéressant.
Oui, j'ai pas essayé le Gwent.
Je troll facilement.
Ouais. Pour moi, aucun des deux était intéressant, donc pour le coup,
je te laisse
le jeu.
Le gant est jeté, quand même.
Donc voilà, nouvelle extension, en gros. Moi, elle est quand même rigolote. Moi,
j'y joue beaucoup trop, toujours. Hein, mais...
Voilà, on y joue beaucoup trop. Et ça c'est peut-être pas... Je me dis quand même, j'ai fait une chronique un peu de silence sur les mécaniques d'addiction assez standard dans les jeux vidéo, et à chaque fois que je joue à Hearthstone je me dis mais je suis tellement en plein dedans, je suis tellement une victime là-dedans, une victime de toutes ces mécaniques, c'est assez...
qui sont pas l'apanage du jeu vidéo, enfin c'est il y a quand même des trucs qui se rapprochent du jeu de cartes de base, la volonté de se refaire quand on a perdu
dans un casino, tout
oui même. Voilà oui.
Non oui c'est
voilà.
Ça
puis
c'est
là voilà, c'est sûr.
Parlons d'un non free to play, d'un jeu à l'ancienne, le retour de Wonder Boy.
Alors Wonder Boy, c'est un classique de Sega.
Ouais.
Qui a fait les beaux jours de la Master System qu'on chérit. C'est une série compliquée à comprendre si on s'intéresse à l'historique, c'est-à-dire parce que des histoires de droit. On va juste parler de celui-là. C'est la ressortie d'un classique Master System, donc Monster Trap. Et il a été entièrement reprogrammé par une petite équipe, dont un mec qui s'appelle Omar Cournu, peut-être que les gens le connaissent. C'est le spécialiste mondial de la Master System, un mec assez fascinant. Et du coup, ils ont fait exactement le jeu au pixel près, mais refait. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux re-switcher sur le jeu originel, juste un peu en appuyant sur un bouton, tu récupères le jeu.
À mode Monkey Island, enfin, je crois que c'est Monkey Island le premier à avoir fait ça.
Ouais. Alors, Monkey Island, c'est un point and click, donc c'est quand même facile de voir que là, on parle d'un jeu d'action où quand même le personnage bouge et où tout doit quand même être réglé au pixel près. Ouais, c'est un jeu où il y a des sauts, il y a des coups d'épée. C'est vraiment très impressionnant. On peut se refaire complètement le jeu à l'origine, puisqu'il y a un bouton qui sert aussi à changer les musiques, de passer des musiques orchestrales, des musiques refaites aux musiques originales.
Et c'est un... vite, quoi. Enfin,
c'est... et plus juste pour dire le jeu, c'est un action RPG. Donc, c'est un action RPG qui est sorti dans la foulée des Zelda, à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était le genre qu'on attendait tous. Ouais. On attendait tous. Genre, on ne pouvait pas attendre un nouveau Zelda. Et Zelda, il ne venait jamais. Il y a eu Zelda 3. Et puis après, il n'y a plus rien pendant très longtemps. Là, c'était une époque où vraiment, c'était la disette. Et du coup, on prenait n'importe quoi. Et Wonder Boy, c'était vraiment le meilleur des clones de Zelda. Il rapproche un peu de Zelda 2. Dans la mesure où tu vois le personnage
de profil
en 2D, il se rapproche un peu de Is 3 pour les puristes, et c'est un vrai action RPG, et le personnage dès le début en fait affronte le dernier boss. C'est un truc que Castlevania Symphony of the Night va repomper, c'est-à-dire tu affrontes le boss du jeu précédent, sauf que tu vas avoir un curse, tu vas avoir une malédiction, et tu vas être transformé en bestiole au fur et à mesure de ton avancée, et de bestiole en bestiole tu vas essayer de regagner forme humaine dans des niveaux qui à chaque fois tirent parti de tes transformations. C'est passionnant à jouer. J'aurais pu croire que c'était un peu aride, tu vois, en termes de maniabilité, parce que la maniabilité Master System et le savoir-faire de l'époque, ça a un peu évolué depuis. C'est un tout petit peu aride, c'est-à-dire je ne le conseillerais pas aux plus jeunes, mais il n'y a pas de raison qu'on soit cassé le cul à finir tous ces jeux qui étaient vraiment beaucoup... Ouais. Ils étaient plus difficiles, hein, c'est clair. Mais c'est un tel niveau de fidélité et en même temps vraiment de respect de l'œuvre originale et en même temps de transformation, parce que les graphismes aujourd'hui tels qu'ils les ont faits, ils sont super jolis. Ça vaut vraiment le coup.
Mais c'est intéressant tout ce phénomène de redonner une seconde jeunesse à des grands classiques. On revient sur une sorte de malédiction du jeu vidéo qui était une sorte d'amnésie continuelle. C'est-à-dire que les jeux qui datent de 5 ans, on les oublie, on peut même plus y jouer, on peut machin.
Ils sont bloqués sur ta console parce qu'ils étaient en dématérialisé. Ouais. Maintenant, est-ce que tu rejoues à tes premiers jeux dématérialisés?
Il y a plein de questions comme ça de mémoire du jeu vidéo qui se posent. Et puis là, de plus en plus, les grands classiques reviennent, que ce soit du côté de Nintendo, que ce soit de...
On n'a jamais vu un truc aussi proche de l'œuvre originale et en même temps repensé aussi profondément. Pourtant, j'en vois beaucoup, je fais beaucoup de remakes. Le Japon produit beaucoup de remakes. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est pas les équipes originales de Escape qui ils ont rien à voir là-dedans. Ouais. C'est vraiment des gens qui ont repris le jeu en tant que fans et les ont vraiment reprogrammés pour se les réapproprier. Et en même temps, tu as exactement le jeu original, l'expérience originale si tu veux.
Le retour de Wonder Boy.
C'est super bien.
Sur les consoles.
Sur PS4, Xbox, sur Xbox One et sur Steam aussi, je crois, sur PC.
Formidable, vous savez où le trouver. Le com des coms de la semaine dernière où nous avons légèrement étrié, je pense, Mass Effect Andromeda, qui pour certains le mérite et qui pour d'autres... Non. Prends l'exemple de Cinec. J'ai trouvé tous les chroniqueurs, trop durs avec Andromeda. Je ne vais pas nier ses nombreux défauts, mais je pense que le jeu se bonifie très nettement avec le temps, qui correspond environ à la durée du jeu de la trilogie originale dans son ensemble, soit plus de 75 heures. Que ce soit en découvrant les planètes plus intéressantes que la Tatooine 2.0 par laquelle on doit commencer, en apprenant à connaître des coéquipiers qui ont l'air sortis tout droit d'une galerie de clichés, mais se révèlent chacun à leur manière intéressante, voire très intéressant. Avec une mention spéciale pour Drac, il arrive dans l'équipe de la manière la plus artificielle qui soit, mais son histoire personnelle inclut justement ses réflexions profondes dont Joël déplorait l'absence. En jouant des missions de loyauté qui vont du très bon à ce que BioWare a écrit de mieux, la mission de Liam est un régal absolu, peut-être la meilleure heure de jeu que BioWare ait jamais imaginé, que ce soit sur le plan du gameplay, du rythme ou de l'écriture, et en appréciant les combats qui deviennent de plus en plus nerveux et dynamiques au fur et à mesure que les pouvoirs se débloquent, culminant dans certains affrontements résolument épiques. épique. En prime, la fin du jeu est extrêmement satisfaisante, même si elle n'atteint pas les sommets de Mass Effect 2. On en ressort avec une impression de contentement et un sourire, ce qui est une franche amélioration par rapport aux 3, même après le patch. Le problème, c'est que tous ces défauts apparaissent dès le début du jeu. Il faut une forme de volonté pour passer outre et continuer à donner une chance au jeu. On a l'impression que BioWare voulait que Mass Effect Andromeda se ramasse des notes pourries, tant l'expérience doit être mauvaise pour un testeur qui doit y passer 10 ou 15 heures. En gros, il expérimentera tout le pire et rien du meilleur. Mais je persiste à penser que ce jeu fonctionne si on le considère comme une série B au ton plus léger, le gardien de la galaxie, là où la trilogie originale était plutôt The Dark Knight. Et en tant que premier épisode d'une hypothétique nouvelle trilogie, il constitue une formation bien plus agréable que Mass Effect 1. Si BioWare décide que comme le 2, la suite sera focalisée sur les personnages et sur une histoire à une échelle plus réduite, alors toutes les pièces seront là pour retrouver la qualité du second épisode. Bon, commentaire un petit peu long, mais au moins, vu qu'on en a dit principalement du mal, je voulais avoir ce... Après, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Bon, c'est vrai que dans Silence on joue, en plus, les gens qui viennent n'ont pas forcément travaillé sur un test écrit pour un magazine. Ça arrive, hein, mais... Mais c'est pas tout le temps le cas. Nous reprocher de ne pas avoir joué plus de 12 ou 15 heures à un jeu, c'est compliqué parce que l'émission ayant lieu toutes les semaines, on n'a pas forcément le temps de passer les 75 ou 100 heures que vous avez passé sur Persona 5, par ailleurs. Mais ça peut pas être le cas toutes les semaines. Là, c'est vrai que c'est compliqué aussi de faire face à un jeu où quand même les 10 premières heures sont laborieuses.
C'est un syndrome un peu récurrent maintenant, c'est que les gens veulent être happés tout de suite. Et même, on va le voir pour Persona, je connais des gens qui me disent « Ah, oh, les premières heures, oh là là, il faut attendre la fin du premier donjon pour... » Ouais, il faut parfois passer des caps. Et aussi, beaucoup de plus en plus de jeux nous testent sur notre volonté, c'est-à-dire sur la capacité à encaisser des choses qu'on n'encaisserait pas en temps normal, quoi. Des trucs, des défauts. Moi, je pense que ça fait partie parfois des expériences. En tout cas, j'ai pas joué à Mass Effect. Moi, tant qu'il y a du sexe interplanétaire qu'on peut choper en GIF, tout me va,
Au-delà de ça, ce qui est curieux avec Mass Effect, c'est que effectivement, t'as une mise en place qui est très longue et qui va à l'encontre de tout ce qui se fait quasiment aujourd'hui en fait dans le jeu vidéo. Il y a un concept qui s'appelle, je crois, la Golden Hour. C'est de mettre le paquet sur la première heure parce que la première heure, c'est le temps qu'on peut mettre pour vraiment entrer dans un jeu et peut-être, si on ne rentre pas dedans, se faire rembourser sur Steam, par exemple. Ouais. Donc, les développeurs aujourd'hui, ils mettent le paquet normalement sur la première heure. Et c'est vrai que un jeu comme ça qui a un peu de mal à démarrer.
Mais pour moi, c'est aussi ne pas faire attention au début du jeu, c'est une sorte de scorie de l'histoire du jeu vidéo. C'est un truc où
il fallait
tester les joueurs, machin et tout ça. Et puis, en fait, c'est cette espèce de développement de jeu qui était problématique historiquement, c'est-à-dire que les développeurs, ils commençaient à coder le début et donc ils s'amélioraient. Ils maîtrisaient leurs outils et ils étaient de meilleur en meilleur en arrivant jusqu'à la fin.
C'est complètement l'inverse.
Les vrais bons game designers, ils commencent toujours par la fin.
Oui, bien sûr.
Et ensuite, pour faire de plus en plus facile.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse à ce point rater un début de jeu.
Ce dont vous parlez, c'est la vision vraiment du jeu vidéo à l'ancienne, ouais. Effectivement, avec la courbe de difficulté. Aujourd'hui, on le sait, les jeux, on les fait dans un ordre chronologique. En fait, on commence par le début et puis plus on avance et plus on a moins de temps pour les temps de production baissent, on a moins de budget et on finit à l'arrache. Aujourd'hui, ce sont les fins la plupart du temps qui sont bâclées plutôt que les débuts. Les débuts, ils sont chiadés la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça que c'est assez curieux.
Et en même temps, moi, il y a des jeux récents, je vois très bien des jeux récents sur lesquels les deux premiers heures m'ont paru tellement insoutenables que je n'ai pas poursuivi. Je pense Zelda Skyward Sword. Skyward Sword, alors, tu vois, moi, dans ma tête, dans mon imaginaire, moi, c'est Zelda 3, tu vois. Tu arrives, il pleut, ton tonton, il est mort, il y a son épée. En deux minutes, t'es armé et tu sais ce qui se passe et t'es dans un univers et t'es dedans. Skyward Sword, c'est parle à un mec, va compter les poules, va truc, et des connards dont t'as rien à foutre qui te blablatent. En plus, Zelda, comme il parle pas, c'est blablabla. C'est horrible. Zelda Skyward Sword, c'est les trucs à pas faire. Faut pas me faire chier avec des villages, avec des PNJ dont j'ai rien à foutre.
Sur la même longueur d'onde, Jérémy Israël qui dit oui, le tout début d'Andromeda est raté et mal amené, mais oui, il y a de l'exploration, du monde ouvert, de la découverte et plein de RPG et vraiment pas que du shooting. J'ai dépassé les 50 heures et je ne sais pas si je suis loin de la fin, mais la plupart des problèmes que vous abordez s'estompent devant l'immensité du truc. La découverte de plein de planètes toutes très différentes et des missions très peu répétitives. Il n'y a voilà, juger ce jeu sur 8 heures n'a pas de sens. Il n'y a pas non plus de souffle épique après deux épisodes de Game of Thrones. J'ai débloqué des trophées de base en relation avec d'autres personnages qui sont marqués comme rares. Ça prouve bien que l'écrasante j'ai pas compris cette phrase, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça prouve bien que l'écrasante majorité des joueurs se sont arrêtés bien trop tôt. Bien trop tôt dans l'histoire pour pouvoir la comprendre. Avec le temps, on commence à cerner les enjeux de manière inégale, je l'admets, et à recomposer le puzzle de ce qui s'est passé pendant les quelques années qui ont précédé l'arrivée de l'Arche de Rider. Voilà. Alors, donc,
il me solde, et jusqu'à ce qu'il parle de l'Arche de Rider, et là, je...
Bah oui, non, mais l'Arche de Rider, c'est le centre de base de Mass Effect Andromeda.
La comparaison avec Game of Thrones, qui est peut-être un peu curieuse.
Oui, parce que ça aussi. Commence... Ça...
Oui, puis au-delà de ça, s'il faut attendre Mass Effect Andromeda 7 ou 8 pour que ce soit bien, je suis pas sûr que ce soit un super argument.
S03E09. Bon, bah, on va y aller parce que bon, on a quand même empiété sur tout ce temps qu'on devait dévouer à Persona 5, et donc on va écouter un petit extrait Persona 5. You are truly as he anticipated. This is truly an unjust game. But if my voice is reaching you, I beg you, please overcome this game and save the world.
Route. Follow my directions. Enemies here?
Suspect confirmed. Cuff it.
It can't be.
Think that all those crimes were led by a punk like this. You seem to be enjoying every second.
You transferred to Shujin Academy, correct?
I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers.
Looks like we'll just have to live a normal, honest school life for the time being. Still, make sure you stay prepared just in case anything comes up.
Il a fallu attendre.
T'as les trompettes là, t'as la tête des petites trompettes derrière. Ah, c'est mortel, c'est musique.
Il a fallu attendre quelques années quand même, quelques années depuis Persona 4. Bon, un peu moins depuis Persona 4 The Golden, la version PlayStation Vita, où moi j'ai passé beaucoup de temps, qui a d'ailleurs été, on va en reparler, un peu la vraie démarrage international de...
Persona 3, déjà, il avait son...
Sur Vita, ouais.
Mais même sur PS2, ouais. Il y avait un buzz, et puis il y avait... Qu'est-ce que c'est que ces élèves dans une école tout bizarre qui se tirent des balles dans la tête pour accéder à leur Persona? Il y a toujours un truc de... Ouais. Qu'on va voir un truc un peu de l'ordre du sacrifice pour atteindre son Persona.
Donc Persona, c'est un JRPG, donc jeu de rôle japonais, qui a eu très peu d'écho. Enfin, c'est pas. En plus, c'est un spin-off. Voilà, on va d'abord reprendre les bases, ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que Persona 5, dont nous parlons aujourd'hui, qui est quand même sans doute le JRPG peut-être le plus important depuis très longtemps, même depuis un Final Fantasy récent, enfin voilà, c'est quelque chose qui a une importance énorme, est un spin-off d'une première série, donc développée par Atlus, Shin Megami Tensei. Est-ce que vous pouvez en parler? Moi, j'avoue que je n'y ai pas joué.
Tu veux te lancer?
Vas-y, je t'en prie.
Bah, Shin Megami Tensei, c'est une série historique quand même, qui remonte quand même à l'ère Famicom, donc c'est vraiment très très vieux. Et le truc qui le différencie des RPG de l'époque, c'est-à-dire de Dragon Quest et de Final Fantasy, c'est qu'il plaçait toujours son intrigue dans un monde contemporain, et en particulier dans l'école, qui est vraiment le centre névralgique. Et du coup, les démons, c'est facile d'imaginer que les démons à l'école, c'est en général des profs. Et il y avait toujours un monde parallèle. Enfin, il y a toujours toute une imagerie qui vient un peu du manga Devilman, donc qui partage le mot Devil du titre. Et ils en ont fait un univers et une patte personnelle, puisque c'est une série qui avait un monster designer qui a rien à voir avec Toriyama de Dragon Quest. Il y a des monstres en forme de bites. Il y a des monstres vraiment un bestiaire très inspiré Cthulhu. Presque Edgar Allan Poe, quoi. Et du coup, ils ont une patte, vraiment. Ils ont un truc. Ils ont inventé presque. On a du mal à tracer, mais le système de monstres que Pokémon et même Dragon Quest a repris, c'est-à-dire prendre des monstres adverses pour les mettre dans ton équipe pour qu'ils se battent avec toi, ça vient quand même de cette série Shin Megami Tensei.
Ah oui, c'est vraiment
vraiment la base de... Bah, après, ça se joue à quelques mois près, tu vois. Et avec Dragon Quest. Mm. Et du coup, en fait, ils en ont fait une saga presque, puisqu'il y a eu le 2, enfin, il y a eu le 3, et ils en ont fait des spin-offs aussi, donc qui se passent à différentes périodes. Et ça devient une touche particulière, c'est-à-dire, quand tu sais que tu prends un Mega Man, tu sais que tu vas avoir des monstres démoniques, et tu sais qu'en général, tu auras un moment d'actualité. Et alors, ça peut être l'actualité d'aujourd'hui, mais ça peut être l'actualité d'il y a 100 ans. C'est une espèce d'univers parallèle dans lequel tu rentres, une espèce d'uchronie à chaque fois. Et puis ça, c'est vraiment plus adulte, pas forcément dans l'écriture, mais au moins dans le traitement visuel. C'est-à-dire que c'est en général beaucoup plus noir. Ils en ont fait des spin-offs, en jeu d'action. Enfin, il y a vraiment eu pas mal de trucs différents.
Et il y a un côté
Persona, juste pour finir sur Persona, c'est que Persona s'inscrit dans le cadre d'un simulateur d'année scolaire. C'est un mélange absurde entre une mécanique de RPG, c'est-à-dire on arpente des donjons, et en même temps, on vit une année scolaire comme si de rien n'était presque, c'est-à-dire on va en cours le matin et on va dans les donjons la nuit. Et du coup, il faut poursuivre ses études, il faut avoir de bonnes relations avec les autres élèves pour monter son charisme et pour devenir quelqu'un d'intéressant dans le cadre de cette année scolaire un peu tumultueuse. Et en même temps, ça augmente les statistiques pour aller dans le donjon, et les donjons qui sont en général assez difficiles. Persona avait la réputation d'être assez difficile. Maintenant, je trouve qu'ils ont un peu nivelé un peu ça avec des niveaux easy, niveau hard. Donc c'est une série très intéressante à bien des égards, puisqu'elle s'inscrit aussi dans une relecture de l'actualité japonaise.
Ouais.
Et Persona 5 n'en est pas exception.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment pour le côté toujours très contemporain et basé dans le monde réel, en fait. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était donc au niveau de Shin Megami Tensei 3, qui s'appelait Nocturne et qui avait été rebaptisé Lucifer's Call quand il était ressorti en France, distribué par Ubisoft d'ailleurs, c'était un truc bizarre, avec en guest star le Dante de Devil May Cry. C'était vraiment un objet très très curieux, ce Lucifer's Call, et c'était vraiment, on était à Tokyo, dans un monde contemporain, où tout d'un coup, cataclysme, le monde, enfin Tokyo, se replie sur lui-même pour former une sorte de sphère, et là-dessus il y a une sorte de démon qui apparaît. C'est toujours un mélange entre quelque chose de très très concret de la vie réelle et toujours du folklore avec des légendes nippones. On va voir de Kagutsuchi, etc. Ce genre de figures qu'on retrouve dans plein d'autres jeux et malgré tout quelque chose de très sombre. Enfin, Lucifer's Call, c'était vraiment la bête intérieure, enfin l'animal intérieur qui à qui on pouvait donner soit sa pleine puissance en disant « Ok, j'embrasse ce démon, le fauve qui est à l'intérieur de moi » ou je choisis d'être plutôt du côté du bien, d'essayer de sauver le monde, etc. Il y a toujours comme ça une sorte de dichotomie qui est hyper intéressante. Et on est arrivé avec Persona 3 faisait un peu la bascule entre ce que ça deviendra après et ce que c'était avant, c'est-à-dire que c'était Persona 3, c'était encore assez aride et c'était surtout très sombre, effectivement. On en parlait un tout petit peu, je crois que c'était peut-être hors antenne, mais pour s'il y avait
il l'a dit tout à l'heure,
oui, voilà,
il fallait
se suicider, c'était pour se suicider, et c'est devenu avec Persona 4 quelque chose d'un peu plus pop, avec Persona 4 qui avait même un côté plongé presque de carte postale dans le Japon rural. On était très loin de Tokyo, on était à la campagne. Et je pense que c'est à partir de cet épisode 4 qu'il y a eu une sorte de démocratisation aussi du genre, parce qu'il était moins austère, il était plus coloré, il était plus amène par rapport au public. Quoi.
Parlons un peu de ce Persona 4 et de la version donc The Golden qui est sortie sur Vita. C'est pour le coup, ça a été un vrai succès critique, ça a été un vrai succès populaire aussi. Alors après, je ne sais pas que ça a été à l'international, mais enfin, en tout cas, ça a été une découverte aussi pour beaucoup de monde de découvrir, parce que vous l'avez dit, vous avez appuyé là-dessus, mais dans le JRPG d'une manière classique en général, on est vraiment dans des mondes de fantasy, que ce soit dans des fantaisies futuristes ou plus très classiquement dans l'héroïque fantasy médiévale, et là, d'un coup d'un seul, on tombe dans le aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnages, ont les habits d'aujourd'hui, ils ont la technologie d'aujourd'hui. Alors ça évolue avec la technologie. Hein, les téléphones portables changent d'année en année. Mais c'est le premier truc qui saute aux yeux, c'est d'avoir ça en fait.
Le truc, surtout avec Persona 4, qui était le porte d'accès idéale, parce qu'en plus il est sorti et sur PS2 et sur Vita. C'était vraiment genre le bon timing, le bon moment. Plein de gens ont pu s'y mettre. En plus, il y avait une espèce de traînée de hype déjà du 3. La particularité du 4, c'est qu'en plus, il est vraiment audacieux dans sa construction, puisque il nous plonge dans ce qu'on appelle au Japon l'inaka, c'est-à-dire la campagne. Ouais. Et à chaque fois, on comprend que le jeu a une thématique globale. Et la thématique du 4, c'est que c'est un whodunit. Il y a un meurtre, il y a des meurtres, et un mystère qui va traîner sur tout le jeu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et recomposer l'histoire. C'est la même chose d'ailleurs dans le 5, où il y a une thématique globale. C'est pas des jeux qui font gratuitement en termes d'idéologie, c'est-à-dire il y a vraiment un discours derrière. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que le héros en général est toujours un peu un outcast, c'est-à-dire il est vraiment un rejet de la société, mais c'est quelqu'un qui est un marginal. Et on retrouve ça aussi dans Persona 5, c'est que c'est des marginaux, c'est des gens dont les gens ne veulent plus. D'ailleurs, le début de Persona 5, ouais. Les gens parlent du héros, mais de manière horrible. C'est vraiment genre, c'est le malaise permanent. Ouais. Et Persona joue avec ça. Et en même temps, ça a été leur coup de maître, c'est d'avoir mis le paquet sur l'esthétique. Puisque les gens font pas ou peu de jeux contemporains, eux, ils ont mis le paquet en termes de... Ils ont pris les graphismes qui fonctionnent, c'est-à-dire le post-évangélion, c'est-à-dire un gros travail sur la typographie, sur les menus, sur l'esthétique globale.
Le côté pop qui transparaît, pop moderne.
Ils l'ont intégré à la Japanime, mais vraiment la Japanime que les gens ont envie de voir, c'est-à-dire un truc un peu moderne, un truc qui a une résonance avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et en plus, il y a un mouvement qui, au Japon, vraiment qui s'appelle comme ça, s'appelle le mouvement Cool Japan, c'est-à-dire de montrer que le Japon est aussi cool. C'est pas juste du folklore. Et alors ils reprennent tous les éléments, c'est-à-dire il y a des chats qui parlent, mais en même temps il y a des nanas jolies, et en même temps c'est un des premiers jeux qui aborde, en tout cas je pense au 4, le thème de l'homosexualité assez frontalement. Pas forcément toujours très bien, mais au moins ils tentent. Et ouais, ça, ouais. C'est un truc qu'on va revoir aussi dans Persona 5, c'est que c'est pas toujours extrêmement à propos, c'est-à-dire c'est pas le niveau d'une écriture de série télé, mais au moins ils tentent d'aller dans des directions que Final Fantasy n'irait pas, que certainement pas Dragon Quest. Enfin, vraiment, c'est un truc à part, et c'est aussi pour ça qui fait le succès, c'est que les gens y trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs.
Donc Persona 4 justement, ça a été la découverte, ça a été l'occasion, et Persona 3, mais surtout Persona 4, l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir cette mythologie, ce concept général d'un monde. Donc on est à Inaba, donc la petite ville fictionnelle de la campagne japonaise, et on découvre comme ça... la mythologie, la thématique générale de l'ensemble, c'est-à-dire ce quotidien, cette année calendaire qui est complètement dingue.
Qui commence à avril, les vacances d'été d'un mois au mois d'août, et puis après, retour à l'école. Et oui, c'est quelque chose auquel les gens ne sont pas habitués. Déjà, nous, on commence en septembre.
Déjà, pour quelqu'un, alors c'est pas votre cas, mais moi, je connais le Japon d'une manière assez lointaine. C'est pas que je m'intéresse pas, mais voilà, je connais. Et là, on a vraiment l'impression de plonger dans un quotidien, de vivre le quotidien d'un jeune lycéen japonais, de la campagne japonaise. Alors en plus, ça, c'est le truc qui arrive pas du tout jusqu'ici, la vie dans la campagne japonaise, c'est assez inconnu pour nous.
C'est plutôt un truc qu'on voit dans les films qui ne marchent pas justement au Japon, c'est plutôt ceux qui marchent en festival en France, les Coréeda, tu vois.
Là, tu viens de sortir un nom que je ne connais pas, mais c'est...
Ah bah écoute, tu devrais lire Libé, je pense qu'ils vont beaucoup en parler. Il y a le festival de Cannes dans un mois, là. Bon. Voilà, c'est des trucs de festival, c'est des trucs qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, tu as complètement raison sur un sens, c'est que, et d'ailleurs, ils ont mis le paquet entre Persona 4 et Persona 5 en particulier, c'est qu'ils sont dans la référence, c'est-à-dire, c'est des choses qui parlent aux gens, aux Japonais. Alors après, ce qui parle aux Japonais peut aussi parler au monde entier, c'est ça le fait que ces jeux fonctionnent. C'est le sentiment de la campagne, tout le monde a un affect avec la campagne. Il n'y a pas que des urbains au Japon, Tokyo est énorme, mais il y a aussi énormément de gens dans la campagne, et tout ça, ça parle à leur imaginaire collectif. Et Persona, en plus, a mis le paquet sur la référence, c'est-à-dire ça ressemble à quelque chose que tu connais. Et d'ailleurs, dans Persona 5, où là, c'est Tokyo, ouais. Ça ressemble au Tokyo que tu connais. Ça ressemble à... Par exemple, il y a un grand immeuble connu à Shibuya, ils ont juste changé un tout petit peu le nom.
Ouais.
Ils changent un peu le... C'est du simili-Tokyo, et c'est vraiment fait avec un très, très grand soin. Là-bas, ils sont beaucoup plus libéraux sur le droit à la caricature et ce genre de choses. Donc, du coup... Persona t'évoque quelque chose de la même manière que Miyazaki t'évoque quelque chose. Miyazaki te parle de la nostalgie, en fait. Il t'évoque le sentiment de la campagne, tu vois, Totoro, tout ça. Et bah ça, c'est un peu la même chose. Ça te parle d'un Japon que tu crois connaître. Et ça, c'est vraiment la force de Persona, parce qu'il te remet en plus dans le cadre de la... de ton année scolaire, et on a tous été étudiants, on sait aussi ce que c'est que les galères d'étudiants, on sait si le sentiment de longueur de l'année scolaire quand on est gamin et que on a envie que ça s'arrête, quoi. Et Persona aussi,
dans le 5, d'ailleurs, ça.
Persona joue avec, ouais. Énormément avec ça.
Kevin?
Ouais, non, juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, sur le côté pourquoi peut-être Persona 5 était plus attendu. Il y a eu donc Persona 4, évidemment, et il y a eu en fait l'émergence de deux choses. D'un côté, moi je trouve, enfin, Atlus a été très bon, aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue stratégique. Artistiquement, parce que ça a été vraiment l'émergence du trio maintenant qu'on retrouve vraiment à la tête de tous ces jeux, c'est-à-dire Ashino à la réalisation, Soejima à la DA et Meguro à l'OST. Et ces trois-là, maintenant, enfin, c'est vraiment, c'est peut-être le trio le plus compétent, le plus en vogue, a aussi fait entre-temps Catherine, qui a aussi beaucoup donné... j'avais même pas fait gaffe encore. Catherine, qui a aussi donné un côté peut-être moins otaku, moins lycéen, comme ça, à une sorte de discours, et qui a... Enfin, voilà, c'était un jeu, encore une fois, qui était très intéressant, aussi bien dans ses mécaniques de jeu que dans les thèmes qu'il abordait. Et d'un point de vue stratégique, comme je disais, c'est que ils ont capitalisé à mort, tout simplement. Atlus, de Persona 4, il y a eu des animés, il y a eu des spin-offs.
Beaucoup de spin-offs, un jeu de danse, un jeu de combat, un mix avec un dungeon.
Persona
Q.
Persona Q.
Qui reprend Persona 4 et 3.
Ils ont énormément capitalisé sur leur série Persona. Ça a été vraiment.
Et puis, je pense que la preuve ultime que quelque chose est un objet très très, on va dire moderne, et c'est la caricature. Et il y a eu un porno Persona 4 qui est sorti au Japon.
Forcément. Voilà.
Si ça existe sur Internet, c'est qu'il y a une version.
Mais ce qui était aussi fascinant et ce qui a permis à des gens de découvrir découvrir cet univers Persona et d'être vraiment fascinés, en tout cas, ça a été mon cas dans Persona 4, c'est que il y a une galerie de personnages, beaucoup de personnages avec qui on interagit beaucoup, mm-hmm. beaucoup de personnages dans sa propre équipe, donc dans l'équipe avec laquelle on va parcourir les donjons. Enfin, on en choisit trois autres en plus du héros à chaque fois. On fait des équipes de quatre, mais on en a beaucoup à disposition. Et on en a beaucoup et on les connaît tous par cœur. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, parce que ça fait partie de la mécanique du jeu et parce que c'est un élément central peut-être de cette mécanique Persona, c'est les relations entre les personnages, les relations qui sont travaillées entre les personnages, et finalement, entre les personnages, mais entre le joueur et ses personnages. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la mécanique du jeu, de ce que tu disais, c'est-à-dire la vie dans le lycée, qui est de rencontrer, de forger des liens et de connaître, de faire la connaissance de gens qui sont individuellement des énigmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'histoire principale, que tu disais qu'il fallait résoudre un peu un mystère général qui pesait sur la ville d'Inaba. Mais chaque personnage est en lui-même une énigme, et on en vient à bout de cette énigme, on finit par connaître le personnage, et finalement, en tant que joueur, on connaît aussi ce personnage. C'est aussi pour ça que la facilité avec laquelle les spin-offs ont marché, c'est-à-dire que quand on a fini un Persona, on connaît le héros, comme dans beaucoup de jeux. Enfin,
d'ailleurs, qui est un peu un template.
Voilà, c'est un peu un template, c'est un avatar, en fait, on est dans le pur avatar. Mais on connaît profondément et bien tous les autres, toute la galerie de personnages.
C'est ça qui est assez intéressant avec Persona, je pense, par rapport aux autres jeux, c'est que non seulement, oui, tous les personnages ont une vie, ont un background, et ils sont attachants pour plus ou moins, ne serait-ce que le look ou les attitudes, mais ils ont aussi toute une thématique. Tu parlais de Catherine très justement. Catherine, par exemple, c'est un puzzle game, mais c'est un puzzle game qui parle de la crise de la trentaine. Chez le mec enraciné. Enfin, vraiment, c'est des jeux qui parlent d'autre chose. Persona 5, par exemple, parle parle de la difficulté d'être un exclu de la société, oui, alors que tu en fais partie. C'est un paradoxe, c'est le paradoxe du Japon, c'est-à-dire que c'est une société très, très collective, vraiment, où il y a un groupe très uni, et dès que tu es marginalisé, c'est très difficile à vivre, et ça ne parle que de marginaux, et chacun a une raison d'être marginalisé. Oui. Et c'est ça qui, si tu me permets de glisser sur Persona 5, c'est que Persona 5 devient réel très très vite. Dès le premier, on parle d'harcèlement sexuel, on parle de viol,
de
suicide, et ça c'est juste dans le premier donjon, l'histoire du premier donjon, dans les 10 premières heures. Il y a une espèce de réalité qui te frappe tout le temps, et tous les personnages ont une raison d'être des rejetés, c'est-à-dire ils ont été brimés, y en a un qui est harcelé par son prof, il y en a un autre, enfin vraiment ils ont vraiment, ouais, on va pas révéler, parce qu'en fait, même ne serait-ce qu'en parler des personnages, ça serait révéler pourquoi
bien
ils
sûr,
sont là dans
bien
le
sûr,
jeu
bien sûr.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que chaque donjon ensuite, chaque moment de l'année scolaire devient obéit à cette thématique que le jeu te propose, c'est-à-dire bah là maintenant tu vas t'en prendre, c'est le méchant, c'est un banquier, le méchant c'est un prof, le méchant, il y a vraiment un truc très très cohérent, et on peut le vivre que si on suit cette année scolaire et qu'on s'impose d'ailleurs, donc c'est ce passage de tutoriel, c'est-à-dire où on t'explique la mécanique du jeu, et c'est une mécanique en plus très très bien huilée, et de Persona 4 à Persona 5, il y a vraiment eu un power-up extraordinaire.
On va revenir sur Persona 5 en tant que tel. Hein, voilà, on a un peu mis les bases.
Mais on voit que Persona 4 te tient vraiment à cœur. Tu
sens moi,
que
j'ai
c'est ton GOTY
de la décennie.
c'était un jeu qui marque les gens. Ouais.
Je suis rarement sorti d'un jeu avec autant de désespoir fini.
Persona 5, ça va te faire ça. Hein.
Mais Persona 4, voilà, il y a ce calendrier. Et puis à un moment, on comprend encore. En plus, il y a une sorte de twist à la fin de Persona 4 The Golden, parce que on a une sorte de bonus. Ouais. Avec un donjon supplémentaire qui gagne encore un petit peu d'heures de jeu, mais à un moment on comprend que ça va on va arriver au bout et que on n'aura pas de mode plus new game machin,
c'est
et
fini.
Tout ça c'est fini
c'est comme les Sopranos, c'est comme The Wire, il faut se faire une raison, c'est fini mec.
Ouais. Voilà, et donc voilà, moi ça m'était resté. On va parler donc plus précisément de ce Persona 5 qui vient donc de sortir en version anglaise, précisons-le déjà, on va évacuer ce sujet-là, mais et voilà, ce jeu n'est pas traduit en français, il y a une traduction anglaise qui en plus est assez pas au top de la traduction, hein. il y a plusieurs débats
alors on en a parlé avec mes camarades de Gaijin Dash dont on n'a pas parlé, mais je suis
Gamekult.
Animateur de Gaijin Dash avec mes camarades Greg et Puyo sur Gamekult. On peut pas parler de traduction, on parle d'adaptation en fait.
Ouais.
Parce que la traduction, il faut avoir les deux textes côte à côte, ouais, et c'est pas exactement ça. Là, on parle d'adaptation, c'est-à-dire comment on adapte une phrase pour qu'elle ait l'air réelle ou pour qu'elle soit cohérente par rapport au personnage. Et c'est sûr que dans la masse de textes, il y en a quelques-unes où tu fais, oula, ils parlent pas comme des gens normaux, même si ton anglais est pas brillant, tu peux comprendre que, oula, ils surparlent, vraiment, ils surjouent le truc. Du coup, ouais, il y a des moments où tu tiltes, mais il faut voir un truc, c'est peut-être raison de temps, raison de. Je pense pas que ce soit des raisons de budget, mais je pense que c'est des raisons de temps. Il y a plusieurs équipes, il y a énormément de textes,
ouais,
et tu peux pas. C'est pas Zelda.
Le truc, c'est qu'il y a énormément de voix. Il y a énormément de passages parlés avec.
Ah, oui.
C'est pas que du texte.
Oui.
Les voix japonaises
sont disponibles en DLC, je crois.
Oui. Voilà. Donc bref, on va parler de Persona 5, mais avant, parce que autrement on va le mettre trop tard dans l'émission. Avant, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de partir au Japon, mais pas n'importe quel Japon, celui de Honshu. Honshu est un jeu de Kaile Malmyoja, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. C'est édité par Lota Pellet et en français par BlackRock Games. Alors quand on regarde une boîte de Honshu avec ce petit dégradé rose, ce petit paysage un petit peu japonisant, on se dit que ce nouveau va se faire des bisous. Eh bien pas du tout. Quand on regarde la boîte et qu'on voit la tranche du guerrier avec son sabre, on se dit que lui il est plein de mauvaises intentions. Et c'est le cas avec Honshu. Ce monsieur se bat pour avoir le plus grand territoire, le plus imposant, celui qui rapportera le plus de points, c'est ce que vous allez faire en jouant en Honshu. Dans la boîte, il y a des cartes et des cubes en bois. Oui, des cubes en bois, donc de la réflexion, donc de l'opportunisme, donc un petit peu de gestion. En gros, Honshu, c'est une espèce de King Domino survitaminé. Vous savez, vous avez des cartes et vous avez construire devant vous une espèce de zone qui sera chez vous, et vous allez marquer des points en fonction des paysages, en fonction des cubes que vous avez posés à droite à gauche, enfin bref, de la réflexion et de l'intelligence, mais accessible quand même. Oui, c'est ça qui est très très fort. En gros, Honshu, ce qui est formidable avec, c'est que c'est un vrai jeu à l'allemande intelligent, dans une toute petite boîte, avec quasi pas grand chose, et ça coûte moins de 15 euros. C'est ça qui est dingue. C'est un jeu qui est intéressant dans la mesure où, dans la boîte, il y a le jeu de base, et il y a déjà des extensions pour pouvoir améliorer, transformer le jeu. C'est juste étonnant. Étonnant quand on voit la tronche de la boîte. Ça tire pas du tout. En tout cas, ça ne correspond pas exactement à ce qu'il y a dans la boîte. Par contre, c'est fin, c'est rapide, c'est intelligent, c'est tout ce que j'aime. Ça s'apprend très très vite, ça se comprend très très vite. Alors, on peut être un petit peu habitué à la gestion des cubes, mais je vous assure, 8 ans, ouais, ils ont raison. C'est accessible à partir de 8 ans. Je vous rappelle le nom du jeu, c'est Honshu. C'est Kaile Malmyoja. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que ce n'est pas cher. Lotapelit et BlackRock Games ont fait un effort incroyable pour découvrir les jeux avec de la stratégie et de l'opportunisme aussi peu cher. Je vous le conseille fortement. C'est Honshu. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de... Pourquoi je gêne mes feuilles ? Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. C'est toujours un plaisir, un honneur et une grande chance de vous avoir parmi nous. Bref, revenons quelques instants à Persona 5. Je viens de regarder l'heure, hein, on en fout, c'est dingue comment on parle, tout ça. Mais il veut parler de ce Persona 5. On va réécouter écouter un nouvel extrait.
Are you really a bad person, as the rumor says?
The world is not as it should be. It faces an inevitable utter ruin. However, mankind is said to hold the power to overturn even the most dire of predicaments.
Personas are the strength born from one's heart.
No matter what it takes, I will bring you to justice!
I can feel it.
This is awesome! Now that I got this power, it's time for payback!
Donc ce Persona 5 commence avec un élément qui arrive plus tard dans le jeu. Enfin voilà, il y a une sorte de flashback, enfin, sur un système de flashback, c'est-à-dire le héros dans une cinématique qui est connue parce qu'elle avait fait notamment les bandes annonces, enfin les premières images du jeu. On voit le héros faire une sorte de braquage dans un casino, tenter un braquage dans un casino, se faire arrêter, et puis là il va raconter son histoire, comment on en est arrivé à cette espèce d'équipe de fantômes, de voleurs fantômes. Et puis, il va raconter voilà, son arrivée dans son lycée et comment il a abouti à créer cette équipe et tout ça. Et donc, on découvre donc que par rapport au cadre, là, effectivement, on est de retour dans Tokyo, on est de retour... ça change tout, moi, je trouve. Ça change un rapport à l'univers. C'est très peuplé, du coup. Il y a énormément de monde. Mais on se rend compte aussi que c'est très, très cohérent avec ce qu'on avait vécu dans le 4. On retrouve vraiment tous les éléments sont là. Est-ce que vous vous souvenez, parce que vous en êtes à plusieurs dizaines d'heures et
moi
tout ça...
Moi, je suis deuxième run. J'ai joué en version japonaise.
Ah oui, d'accord.
Deuxième run, donc.
Et les premiers instants, comment est-ce qu'on redécouvre un persona comme ça, Kevin ?
Bah c'est vrai que t'en parlais là, le côté du coup flash forward presque du tout début est très curieux parce qu'on est assailli immédiatement par des voix qu'on ne voit pas, on entend en fait dans l'émetteur radio et dans l'oreillette qu'on entend en fait les consignes de toute son équipe, mais on est comme ça enseveli sous des tonnes de dialogues. On capte rien, et c'est assez curieux, et du coup il y a une énergie en fait dès le début du jeu où justement enfin on parle un peu du côté peut-être un peu long des premières heures, enfin pour le coup le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, c'est d'une énergie folle, et du coup moi j'étais tout de suite dedans parce que il y a ce côté, il y a l'urgence en fait de la situation, il faut fuir, il y a des premiers combats, il y a l'arrestation, et très vite et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Arrive le côté plombant de la thématique du paria, en fait. Parce qu'il faut savoir que le personnage, s'il arrive dans un nouveau lycée, c'est parce qu'il a été, il est en probation, en fait. Il a été jugé comme un criminel parce que, pour une sombre histoire, on va pas trop en révéler. Un crime qu'il n'a pas commis. Et du coup, arrive dans ce nouveau lycée avec la réputation d'une racaille, quoi. Vraiment, ouais. C'est comme ça qu'il est traité. on voit dès les premiers dialogues, il y a des profs qui sont en train de parler. Enfin, mais comment on va faire avec ce nouvel élève? Les autres lycéens disent oh non, mais c'est une catastrophe. C'est quoi ce voyou qu'on nous impose? Et du coup, on est tout de suite plombé par cette réputation. Dans un jeu vidéo, en général, on a tendance à être bien traité, on a la figure héroïque en devenir, en tout cas. Et là, on est tout de suite assailli par des insultes, des brimades et un rejet constant. Et tout le jeu va être...
Et le fait de devoir se faire petit aussi. Hein. Il ne faut pas faire de vagues.
Bien sûr.
Mais ce qui... Je ne l'ai pas parlé, mais je voulais quand même l'évoquer parce que je trouve que c'est aussi un moment assez particulier. C'est le générique de début. Qui ouais. montre la maîtrise d'Atlus du ouais. design général.
Oui. C'est ça qui est fou.
On se prend un truc, personne passe le générique. Enfin, je sais pas, la première fois qu'on
prend le générique. Personne passe le générique, mais tout le monde reste dans les menus. Ouais. Puisque, en fait, c'est ça le. On regarde l'esthétique recherchée. Ouais. Au début, on pourrait se croire que c'est trop, quoi. Genre, ouais. on perd en lisibilité. En fait, non. Ouais. J'ai passé littéralement des heures à regarder les menus et à juste faire la croix ouais. et juste me déplacer de. De schéma
c'est tellement parfait.
C'est ouais. tellement. C'est l'interface utilisateur la plus belle que j'ai jamais vue.
Ouais. Très clairement. Ouais. Moi, là, je suis d'accord. Il n'y a tellement pas photo sur tout ce qui ouais. se fait ailleurs. C'est des fois,
t'as les seuls qui font à ce point. Regarde l'esthétique de ces combats, ouais. des choix, ouais. et en même temps, qui ne coupe pas le jeu, qui s'intègre complètement à l'environnement. Bon, et en plus, c'est un jeu avec un chat qui se transforme en van Citroën, ouais. donc c'est quand même un peu la classe. Il y a un truc que je trouve assez génial en y repensant par rapport à ce que tu as dit, c'est que du fait que tu sois oppressé, et c'est ça le sentiment, pourquoi je pense même que Persona 5 est même supérieur à Persona 4, c'est qu'il y a un sentiment vraiment exacerbé du moment où tu bats les boss, où tu viens à bout de l'oppresseur, en fait, vraiment de sentiment ouais. de libération. Et tu l'as que dans les jeux, genre Dark Souls, où t'as vraiment un défi à remporter, ou par exemple Monster Hunter, où tu dois jouer à plusieurs et faire fusion pour battre un boss. Là, tu as vraiment un sentiment vraiment extraordinaire de putain, j'ai réussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que tous les donjons, en fait, c'est la persona de ton oppresseur, en fait. Tu rentres dans l'inconscient de ton oppresseur, et par exemple, là, je parlais d'un banquier, donc tu rentres dans une banque, en fait. Y en a un, et c'est un peintre, bah, tu rentres dans un tableau, en fait. Ouais. Il y a vraiment une thématique à chaque fois, et tu rentres là-dedans, et tu dois à chaque fois en voler le trésor. Il y a vraiment une thématique importante des voleurs. Donc tu essaies de voler le trésor qui est au fond de son donjon, de son inconscient, et c'est ça qui va rétablir l'équilibre, qui va enlever l'oppression démonique sur son être. Et il y a vraiment un truc, c'est ça qui est extraordinaire et cohérent. On parlait des menus, mais les voleurs, chacun a un avatar, donc un persona, donc là le sentiment exacerbé de son inconscient qui devient un monstre ou un personnage et qui avait un personnage de combat et qui sont tous en rapport avec le monde du voleur. Par exemple, il y en a un, l'asiatique, il a Goemon, tu vois. Ouais. Je veux pas trop les spoiler, mais il y en a un, c'est Carmen la cambrioleuse, ou Where is Carmen Sandiego. Le héros, il a Arsène. Donc il y a vraiment à chaque fois une référence. C'est presque un jeu. On s'attend pas à un tel niveau d'écriture,
surtout de cohérence.
De cohérence, ouais. Surtout de la part des jeux japonais qui ont pas, c'est pas leur grande maîtrise et depuis ils ont eu des années de disette. Et là, tu sens que il y a eu un espèce de moment de Japanese Pride, vraiment. Je parlais de Cool Japan, c'est vraiment de Japanese Pride. Il faut voir que c'est aussi un jeu qui a été développé après le Grand Marais. C'est le premier grand jeu de l'ère post-2011, de mars 2011, qui a vraiment marqué. Ils avaient déjà fini Persona 5 vachement avant. Ils avaient déjà un autre jeu. Et en fait, ils se sont dit, non, on va faire un jeu complètement différent. Et ils l'ont repris à zéro pour faire ce jeu-là. Et ça se sent, en fait. Parce que c'est une version parfaite d'une idée déjà géniale.
Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup, et à raison, hein, pour
sans
dire...
Sans spoiler, bien sûr.
Non, mais de la patte visuelle, artistiquement, c'est vrai que c'est juste incroyable. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, c'était le cas dans le 4, on en parlait un petit peu tout à l'heure, où ça abordait des thématiques pas forcément évidentes et pas souvent traitées dans le jeu vidéo. Mais moi, ce qui me sidère avec le 5, c'est à quel point il est lucide en fait sur la société moderne, et je parle pas seulement de la société japonaise que je connais, voilà, je voudrais pas tomber dans la caricature, mais sur le monde en fait d'aujourd'hui. Effectivement, le premier vraiment premier ennemi, c'est quoi? C'est un pervers narcissique. Ensuite, voilà, qui fait du harcèlement. On va tomber sur, enfin, tout ce qui est
tous les rapports de domination, en fait.
Tous les, voilà, et enfin, ce qui est aussi hyper critique sur la société japonaise de manière générale, tant en termes politiques qu'économiques, on a quand même quelque chose de l'ordre, et surtout, voilà, le conflit générationnel, quoi. Ça, je pense que c'est au cœur du jeu, c'est-à-dire qu'on a, deux clans qui ne se comprennent pas, c'est les adultes et les adolescents qui vont en devenir et qui ne veulent pas, en fait, rejoindre ce monde-là, ce monde gangréné par l'argent, avec des yakuza au coin des rues, des gangsters à Shibuya, et toute la thématique du jeu, ça va être de enfin, il y a plein de fois plusieurs personnages, notamment Ryuji, qui est un peu le plus énergique, c'est celui qu'on voit en ce moment, qui va dire mais c'est quoi, c'est rotten adults, voilà, c'est ça, c'est pourriture d'adultes, et on va les changer, quoi. Et le but du jeu, c'est ça, c'est-à-dire c'est de faire des changements de cœur. Bon, je traduis vraiment littéralement, mais c'est de rentrer dans leur inconscient, parce qu'on est vraiment dans Jung, en fait. Voilà, c'est l'idée de, on a tous un masque en société, et à un moment, on n'en peut plus, on veut pas rentrer dans le moule, on va l'arracher, ce masque, et on va pouvoir comme ça dynamiter, faire une révolution
avec
à l'intérieur.
Cette thématique de la rébellion,
qui court
sur le jeu.
Juste pour finir, qu'un jeu aujourd'hui soit capable de dire autant de choses sur la société moderne, moi c'est bluffant. Alors après, il y a des
restant un putain de jeu quand même.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est.
Et là, on parlait du jeu. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais le truc, c'est que vraiment le jeu a été tellement amélioré. Ils ont enlevé les donjons aléatoires.
Ouais.
Maintenant, c'est des vrais donjons, donc il y a un vrai level design à chaque fois.
Il y a un donjon aléatoire,
mais il est optionnel. Mais c'est quand même cool d'y aller.
Ouais.
Mais là, vraiment tous les donjons ont été réfléchis.
Ouais.
Tout a été un peu pas simplifié, mais plutôt clarifié. C'est-à-dire que là, on le voit quand tu rentres voir Igor pour faire les fusions de tes personnages.
Alors Igor, personnage récurrent de la série Persona, dans la Velvet Room, c'est là où finalement c'est un peu l'instructeur du héros, et en même temps une figure comme ça très inquiétante, très
mastermind.
C'est ça.
Et c'est que le jeu est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment il y a une dimension tactique, puisque maintenant tu peux plus faire n'importe quoi. Ça dépend aussi du niveau de difficulté, parce que vraiment en easy tu te balades. Mais entre normal et hard, là, d'un coup, il faut quand même être un peu tactique, il faut se planquer, il y a un petit peu d'infiltration. Alors, j'ai une tendance à détester les jeux qui utilisent un tout petit élément d'infiltration, parce qu'en général, ils le font jamais bien. Là, il est vraiment léger, mais il n'est pas...
Petit élément en plus.
Il n'est pas prépondérant.
Prendre ses ennemis par surprise.
Et c'est vraiment un super jeu ultra addictif. Et on a ce phénomène de tu sors de ton donjon parce que tu es obligé, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'enchaîne une nouvelle journée? Et c'est comme ça que tu enchaînes. Les gens qui jouent à Persona, ils y jouent pendant 10 heures d'affilée. Ouais. C'est vraiment du...
Sachant, juste pour rester sur le format des combats, on est sur un format passionnant. C'est-à-dire qu'en tour par tour, qui est un format connu du JRPG, on sait qu'il y a les attaques, invocations, magie, utilisation d'objets. Là, on est dans le classique du combat tour par tour. Et dans Persona, depuis le 4, et encore plus dans le 5, parce qu'ils ont rajouté des choses, on a un gameplay d'une profondeur, où il faut connaître ses ennemis, il faut connaître ses alliés, il faut décider les phases de négociation, parce que c'est les ennemis qui vont devenir les propres personnages du héros, mais pour qu'ils rallient le héros, il faut d'abord, les assommer, et de négocier, c'est-à-dire connaître
avec des dialogues absurdes,
de quelles réponses donner pour que...
Ils sont jamais très cohérentes.
Ça fait partie du gag. Et après, voilà, les combats et les donjons sont d'une profondeur. Voilà, moi je m'ennuie jamais. Et en même temps, il n'y a pas une nécessité de grinder, d'être au-dessus du niveau. C'est plus facile qu'avant. mais parce que il y a une difficulté aussi qui est de bien comprendre le système de combat, de jouer avec les forces et faiblesses de chacun. Et franchement, moi j'ai adoré. Voilà, il y a ce qui ressort de Persona 5, c'est une sorte de... On prend les différents éléments et à chaque fois c'est quasi parfait en fait.
C'est ça qui est assez étonnant, c'est que vraiment c'est un amalgame de beaucoup d'éléments et des phases de discussion qui peuvent parfois être longues. Hein, et en même temps.
Le côté visuel novel, ouais, finalement,
oui,
du truc.
Oui, parce que en fait, c'est l'héritier de ce qu'on appelle le digital comic, des jeux de drague, littéralement, Tokimeki Memorial, où on doit faire bouger ses stats en fonction de, bah, de ses affinités avec les autres personnages. Et ça, c'est une partie importante du jeu. Mais en même temps, Persona 5 a un peu pas simplifié la tâche, mais c'est-à-dire, il t'offre d'autres options, par exemple. Tu peux à tout moment savoir, avoir une statistique sur ce que les gens ont fait. Ouais. Et donc, si t'es pas le genre de mec à parler à tous les PNJ et à prendre des heures, tu peux juste regarder ce que les gens ont fait et te faire une petite idée de là où tu vas aller. Mmh. C'est vraiment très, très, très bien conçu. C'est vraiment le. On n'a pas vu de JRPG à ce niveau-là depuis très, 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 très longtemps. Quoi.
Je pense que, à défaut d'en avoir fait le tour, parce que je pense que ce serait compliqué.
On pourrait en parler en spoiler. Parler des personnages qui viennent ensuite,
peut-être aussi, toi tu disais que c'était presque parfait, moi je pense qu'il y a encore 2-3 trucs, je trouve un peu dommage par exemple que Sabo est hyper progressiste, hyper moderne, je trouve toujours dommage qu'il y ait quand même une vision très très hétérocentrée et très, du personnage principal, on s'adresse toujours à l'otaku, on peut draguer des adultes, coucher avec des profs, machin, mais on peut pas draguer son meilleur ami ou tu vois,
c'est pas BioWare.
Il y a un truc, c'est que j'ai.
Mais ça viendra peut-être, j'espère en tout cas.
Je rejoue puisque je refais mon deuxième run et même je pense que je vais peut-être en faire un troisième. Le truc, c'est que je me rends compte dans l'écriture de jeu, c'est que ça reste quand même une vision assez japonaise.
Oui, bien sûr.
Et ce que je veux dire par là, c'est pas en sens négatif. Je pense qu'ils ont vraiment fait de leur mieux et je pense que peu de gens auraient pu faire aussi bien. Mais par exemple, tu vois, quand ils parlent de brimade ou de ce qu'on appelle le hijime, quoi, c'est-à-dire vraiment le môme qui est poussé à bout, je sens qu'ils sont pas je sens que c'est pas des choses qu'ils ont vécues. Quand quelqu'un te parle de. Des brimades à l'école ou des choses comme ça, on en a tous connu. Quand ils t'en parlent, il y a une espèce de vérité. Je pense qu'ils sont quand même, ils font quand même un jeu vidéo. Quoi.
Oui.
On n'a pas une profondeur que tu pourrais avoir dans une série télé, par exemple.
Oui, ça reste assez japonais pour tout ce qui est Ikikomori ou ce genre de choses.
Mais en tout cas,
je trouve ça universel malgré tout.
On va quand même très très loin dans le propos. Ouais. Et je pense que ça apporte surtout un tel sentiment de plaisir et de joie qu'il mérite d'être analysé malgré ses entre guillemets approximations d'écriture. Il mérite d'être analysé comme un moment de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeu vidéo japonais a pu nous offrir de meilleur entre 2016 et 2017.
De plus sagace, de plus lucide.
C'est Persona 5. C'est clairement Persona 5. Et je veux juste dire, on vit une période extraordinaire pour le jeu vidéo japonais puisque on a eu juste avant Nier Automata, qui est lui aussi une énorme proposition de jeu vidéo, complètement inédite. Et voilà, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Et pas. Ils sont relevés les manches et ils ont fait vraiment des jeux vidéo comme le monde occidental est prêt à les recevoir. Vraiment, Nier Automata, Persona 5, on vit vraiment un très très grand moment.
C'est tout l'objet du JV de ce mois-ci.
C'est un bon promo.
Pas mal. Merci à tous les deux. Je disais à Devo d'en faire le tour. On a un peu, vous a expliqué pourquoi c'est important. Si vous, en tout cas, vous lisez l'anglais, vous n'avez aucune excuse. Persona 5 sur PlayStation 4.
Et PS3 aussi.
Ouais. Et PS3.
Il n'y a pas de raison.
Il était prévu sur PS3 au départ. Juste très rapidement, parce qu'autrement, on va se faire gronder par nos amis de No Life. La question rituelle est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Toi, tu n'es jamais bon à cette question.
C'est surtout que là, j'en suis à 110 heures de jeu depuis deux semaines. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. La dernière fois, je crois que j'avais parlé du livre que j'étais en train de lire. C'était La Tour Sombre. J'étais au tome 2. Maintenant, je suis au tome 5. Voilà. Je suis au tome 5. C'est toujours bien.
C'est toujours bien. D'accord. Daniel.
Et moi, j'ai pas le temps de jouer, malheureusement. Parce que j'aimerais bien avoir le temps de refaire Zelda et de jouer à Zelda et de m'abandonner dans
Zelda.
Mais
c'est quand tu ne joues pas, justement.
Et quand je ne joue pas, j'écris un bouquin en ce moment qui sera publié normalement en juillet. Donc je suis dans le rush de fin, le moment où je perds le sommeil et ça parle de Dragon Quest. Voilà.
D'accord. Moi, je ne peux que conseiller, je l'ai reçu, c'est le profil de Jean Melville. C'est une bande dessinée sur un polar très actuel, très contemporain, mais un peu d'anticipation. C'est un polar qui se passe dans 5 ans, nourri au big data, aux données personnelles, aux lunettes connectées, à ce genre de choses. C'est absolument génial.
Qui est président, alors, dans ce
Non, il ne parle pas de président. Ah. C'est vraiment, on est vraiment sur un polar à l'ancienne, mais avec des nouvelles technologies. C'est d'une justesse absolue. C'est en termes d'anticipation, c'est aux éditions Fleu Bleu Bleu et c'est en lecture, c'est disponible sur le blog Mediapart de l'éditeur en version Creative Commons CCNC en intégralité. Donc, mais il est très bien en papier aussi, vous pouvez l'acheter. Voilà, c'est fini pour cette semaine encore, merci Daniel et Kevin. Et mais nous, on se retrouve donc la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.